Alors, je continue rapidement. Hein. C'est pour essayer d'évoquer en vous. Il y aurait, je crois, toute une trame merveilleuse à voir. Dieu qui se sert du pain. Dans l'Ancien Testament, je ne rappelle pas tous les lieux, mais il y a une trame. Et ça, c'est la sollicitude paternelle de Dieu. C'est le Père qui donne le pain. Il ne faut jamais l'oublier. Je ne dis pas que la grand-mère donne les gâteaux, mais c'est le Père qui donne les pains. Parce que c'est le fruit du labeur. Quand le Père donne les gâteaux, c'est dangereux. Il faut laisser ça aux grands-parents. Et puis alors, à côté de cette grande pédagogie divine, il y a la pédagogie du vin. Ça existe. Elle existe dans l'Écriture. Qui est toute différente. Mais là, je crois que nous entrons dans ce sens de la théologie de l'économie divine qui doit nous montrer comment Dieu se sert de deux œuvres de l'homme. Le pain. Mais il n'a pas pris des graines de blé. Le pain. C'est une œuvre artisanale, le pain. C'est un art de faire du pain. On le sait bien. Et la France aime bien de faire du pain. Dans Peggy, il dirait qu'il n'y a que les Français qui font du bon pain. Ça, c'est Peggy. On relativisait, mais on comprend très bien qu'il a saisi qu'il y avait là quelque chose d'assez particulier. Dieu se sert du pain, Dieu se sert du vin. Et aussi, c'est une autre œuvre. Et si on regarde attentivement au plan de la philosophie du travail, et de la philosophie de l'art. On voit que c'est les deux œuvres par excellence, le pain et le vin. Évidemment, pour les pays de céréales, vous allez me dire, ça c'est sûr. Il y a le riz qui remplace le pain. Puis il y a d'autres produits qui remplacent le vin. Mais le pain et le vin restent symboliquement les deux œuvres par excellence, les plus utiles, les plus nécessaires. Nécessaires à la vie, nécessaires à la fête. Et là, on voit aussi unis au symbolisme. Vous voyez. C'est le symbolisme de l'aliment et le symbolisme de la boisson. Et les deux sont la nourriture. Le pain, c'est nécessaire à la vie. Le vin, c'est la surabondance. J'ai déjà dit plusieurs fois qu'à Fribourg, j'étais quelquefois très gêné devant certains braves gens qui venaient mendier à 9h du matin. Il y avait une odeur d'alcool assez nette. Si on leur présentait du pain à manger, ils n'en voulaient pas. Attendez autre chose. Alors on se pose la question, est-ce qu'il faut leur donner de quoi avoir un peu de joie dans leur cœur, puisque c'est le vin qui réjouit le cœur de l'homme. C'est vrai, on ne mendie pas pour du vin. Ça se fait pas. On donne le vin pour la fête. Important dans l'économie divine de saisir ces choses-là. Je vois que Jésus a commencé par le vin. J'ai pas pris les noces de Cana en premier lieu. C'est bien vu quand même. Ah, tandis que quand vous voyez le grand pique-nique du chapitre 6, vous voyez que Jésus demande aux apôtres de ramasser toutes les miettes. Parce que le pain, c'est nécessaire. Et les choses nécessaires, on n'a pas le droit de de les gaspiller. On ne gaspille pas le pain. C'est la première éducation que les parents donnent dans la famille. On ne gaspille pas parce que le pain est le fruit du travail. Alors ça ne se gaspille pas. On ne gaspille pas le travail du père. Alors on ne gaspille pas. Et c'est pour ça que c'est quand même le pain qui est premier dans ce symbolisme et qui nous fait le mieux comprendre ça. Et Jésus demande de ramasser toutes les miettes. Et les apôtres ramassent toutes les miettes. Et on voit très bien que là, il y a un contact qui s'est fait entre les apôtres et cette foule. Ramasser les miettes à la fin du repas. Ils se sont laissés contaminer. Jésus sait qu'après avoir fait ce miracle de la multiplication des pains et des poissons, la foule veut le proclamer roi. Et les apôtres sont avec eux. Parce que les apôtres montrent tout ce que Jésus a fait pendant cette première année. Ils veulent proclamer Jésus roi. Vous voyez, c'est très étonnant, la déviation. Comment on a de la peine à comprendre les gestes du Christ. Et comment on les interprète dans ce que nous aimons le plus. C'est merveilleux d'avoir un roi qui nous donne du pain tous les jours, gratuitement, sans travailler. Enfin, c'est la nostalgie la plus profonde que tous les êtres humains ont dans leur cœur, ça. Ne plus travailler. Recevoir tous les jours, ça. Et Jésus apparaît comme ça. Il le donne gratuitement. Il y a un pain. Je suis persuadé que la conversation dans ces petits groupes, c'est celui de voir la qualité de ce pain. C'est extraordinaire. Jamais pris ce pain-là. Et les apôtres passent. Mais qu'est-ce qu'il est? Ils ne le connaissent pas beaucoup, Jésus. Les apôtres le connaissent. Et l'évangile dit simplement, il voulait le proclamer roi. Jésus, sachant qu'il voulait le proclamer, s'en alla tout seul. C'est la première rupture avec les apôtres, si j'ose dire. C'est la première fois que Jésus s'en va seul, alors que ça devrait être l'inverse. Quand on a fait ce geste de générosité, et qu'on a donné à tous autant de pain qu'ils voulaient, autant de poissons qu'ils voulaient, il devrait y avoir à ce moment-là un lien. On ne t'abandonnera jamais, on ne te quittera jamais. Et Jésus s'en alla seul. Parce que Jésus ne veut pas que ce pain qu'il a donné, ce soit comme une mainmise sur lui. On veut le proclamer roi, mais d'un messianisme temporel, pour qu'il donne ce pain tout le temps. Vous voyez, là on sent bien comment recevoir gratuitement de Jésus ce pain ne sanctifie pas nécessairement. Ils n'ont rien compris. Ils ont regardé Jésus d'un point de vue purement temporel, d'un point de vue purement humain, alors que Jésus faisait ce geste pour les conduire vers quelque chose d'autre. Comme une mendication, une espèce de pédagogie divine, par cette mendication, une pédagogie divine, pour les conduire vers quelque chose de beaucoup plus intérieur. Et on le voit le lendemain. Et la foule ne l'a pas compris. Alors, il y a ce geste du pain, il y a ce geste du vin. Vous voyez, le vin est donné par surcroît. Ce n'est pas dans un pique-nique. Ce qui n'empêche pas que dans un pique-nique, on puisse avoir des bouteilles de vin, c'est sûr. Mais c'est, si on entre à fond dans ces deux repas, et la spiritualité de ces deux repas, là encore, vous voyez les deux extrêmes. Oui, toujours. Ce langage divin, les deux extrêmes. Le pique-nique, le repas le plus préparé, le mieux préparé, c'est un repas de noces. La noce, c'est la gloire de la famille, quoi. Le jour des noces, pas le lendemain, mais le jour des noces, c'est la gloire de la famille. C'est quelque chose de merveilleux. La petite pousse qui recommence et qui repart. Il manque de vin. Jésus répare ce manque. Oui, et Jésus ne demande pas aux apôtres de reprendre pas les miettes, mais tous les fonds de carafe. Il ne demande pas ça du tout. Parce que ça n'aurait pas été très apologétique, vous voyez. Les apôtres seraient partis hein, sur leur dos avec tout ce qui restait de vin. Ils devaient en rester 5 à 6 hectolitres. Ils n'étaient pas aussi nombreux que quand ils suivent Jésus, parce que c'était des invités. Dans les noces, c'est pas comme un pique-nique. C'est quand même très curieux hein, de voir cette pédagogie divine qui nous montre ce qu'est le pain, ce qu'est le vin. Il le montre de façon admirable. Et il le montre non seulement dans son évangile, mais dans tout l'Ancien Testament. Vous pouvez lire toute la première alliance. C'est l'alliance du pain, c'est l'alliance du vin. Et c'est vrai, c'est l'alliance du pain et du vin. Et au désert, il y a la manne, ce pain qui est descendu du ciel. Et au désert, il n'y a pas le vin. Il n'y a que la manne. Et voyez les prophètes, Élie, avec les galettes de pain qui lui sont données pour enlever son désespoir, pour leur permettre de recommencer à marcher. Constamment, nous trouvons cela. Alors, je reviens au chapitre 6. Vous voyez la multiplication des pains. Vous voyez ensuite les apôtres qui ont compris que Jésus n'était pas content de leur réaction. Il y a eu un petit froid. Alors, ils retournent d'eux-mêmes à Capharnaüm, en prenant des barques. Et durant la nuit, Jésus les rejoint. Second miracle, présence du Christ. Et dès que Jésus est là, immédiatement, on touche la côte. C'est très étonnant. Le lien entre le pain et la présence. Et il suffit de lire ce chapitre 6. Et le lendemain, alors, la grande théologie du pain, le vrai pain. Et Jésus se dit, je suis le pain de vie. La grande révélation de Jésus comme pain de vie. C'est très beau. Voir que Jésus révèle qu'il est le pain de vie avant de parler du mystère de l'Eucharistie. Vous n'avez qu'à relire. Encore une fois, faites-le. Parce que vous ne pourrez pas entrer dans toute la théologie du mystère de l'Eucharistie sans lire et relire ce chapitre 6. Au terme de son grand enseignement qui se fait à la synagogue, la synagogue, c'est le lieu de la parole. Et c'est à la synagogue de Capharnaüm, que se fait ce grand enseignement du pain de vie. Jésus dit, je suis le pain de vie. Puis Jésus annonce ensuite, ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Il annonce qu'il va donner sa chair et son sang en nourriture, en breuvage. C'est l'annonce prophétique du mystère de l'Eucharistie. Et c'est dans le prolongement de ce miracle de la multiplication des pains. Et c'est pour ça que ce chapitre 6 c'est absolument nécessaire. Toute la théologie de l'Eucharistie doit être reprise à travers ce chapitre 6 au Saint-Jean. C'est très beau. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. Et en même temps, on voit, parce que c'est important à noter, que ce grand discours de Jésus n'est pas reçu par tous. Quand Jésus donne le pain en quantité, reçoit ce pain. On n'a pas dit qu'il y avait plusieurs qui faisaient la grève de la faim. Non, tous ont reçu ce pain. Autant qu'ils ont voulu, sans rien payer. Et quand Jésus se place dans un point de vue divin, pour montrer la signification du mystère, je suis le pain véritable. Je suis le pain qui descend du ciel. Vos pères ont mangé la manne et sont morts. Celui qui reçoit ce pain vivra éternellement. Évidemment, c'est rude. Là, ils n'ont pas dit seulement « Ah, il n'a pas le sens politique. Il n'a pas le sens de la prudence politique. » Je crois qu'ils ont su dire « Il commence à dérailler. Ça va plus du tout. Ça va plus du tout comment il peint, quoi. Le pain, on sait ce que c'est. Et le pain véritable. Et c'est vrai, subitement, si quelqu'un disait ça, vous voyez. Après avoir fait ce geste, pour rappeler la qualité du pain, Jésus dit, je suis le pain de vie. C'est bouleversant, ça. Hein. Et c'est là où on voit toute la différence entre la première alliance et la seconde. Dans la première alliance, jamais Dieu, jamais Yahvé, a dit qu'il était le pain. Jamais. Jésus, qui est l'envoyé du Père, qui est notre Dieu, et je dis bien notre Dieu, puisqu'il est notre sauveur, et qu'il est Dieu pour nous. Et c'est vrai, il est Dieu pour nous. C'est pour ça qu'il est le pain. Le pain, c'est l'aliment. Le pain, il est pour le vivant. Le pain, il est entièrement orienté vers celui qui va le manger. Jésus, c'est Dieu pour nous. Et quand il dit « Je suis le pain de vie », il montre cela d'une manière étonnante, de la manière la plus simple qui soit. Il est le Dieu pour nous, Dieu avec nous. Alors à ce moment-là, beaucoup ne comprennent plus. Beaucoup critiquent. Parce que Jésus leur demande à tous un grand dépassement. Tant qu'on reste dans des réalités visibles et sensibles, on comprend. Dès qu'il faut faire un effort de foi divine, d'entrer dans le mystère, il faut à ce moment-là une totale confiance dans le Christ. Il faut un grand amour. Il faut aimer plus Jésus que nos propres expériences. Il faut aimer Jésus plus que toutes nos connaissances. Et là, on sonde le cœur du croyant. Il y a un grand savant aujourd'hui, hein. Il y en a peut-être parmi vous, c'est possible. Un grand savant qui est porté au nu comme grand savant. Parce que ça fait partie d'être un grand savant, ça. Il est connu par tout le monde comme le grand savant, le plus grand savant dans le domaine de la physique nucléaire. Est-ce que ce savant, s'il est croyant, s'il est chrétien, peut dire « J'aime plus la parole de Jésus qui m'enseigne que toute ma connaissance scientifique. » Pas si commode. C'est le critère du véritable théologien. Demandez à un théologien s'il aime plus un théologien chrétien, catholique, ou même protestant, s'il aime plus la parole du Christ que tout ce qu'il a acquis par ses recherches. connaissance humaine. Elle n'est pas au même niveau. Aujourd'hui, on comprend ça par une comparaison. Hein. La foi nous fait, nous donne un regard divin. Donc on s'élève très haut, jusqu'à Dieu. La connaissance scientifique, si intéressante et si vénérable qu'elle soit, est limitée. On vole à 1000 mètres, 5000 mètres, 10 000 mètres. On peut le mesurer. La foi, ça ne se mesure plus. Rien n'est au-dessus de la foi, si ce n'est Dieu. C'est une lumière divine. J'aime beaucoup ce passage, voyez, dans ce chapitre 6, à cause de ça. C'est que Jésus a été jusqu'au bout. Il a annoncé quelque chose d'invraisemblable. Ma chair est vraiment une nourriture. Voyez, commencez un tout petit peu à comprendre ces choses-là, parce que c'est important si on essaie de nous mettre dans cette perspective d'une théologie de l'économie divine. À Marie, la chair, le Verbe est devenu chair, l'incarnation. Et on dit tout de suite la chair. Les théologiens parlent de la nature humaine. L'Écriture parle de la chair. Ça, c'est le réalisme étonnant de l'Écriture. Puis, on parle du pain. Et du vin. Les deux s'appellent. Et se commandent. Avec la différence qu'on met entre les deux. Puis Jésus, le troisièmement, il dit, ma chair est vraiment une nourriture. Mon sang est vraiment un breuvage. Jésus reprend la chair. Ma chair est une nourriture. Et, en dernier lieu, au chapitre 13, dans Saint Jean, au chapitre 21 et 22, dans Saint Luc, cette nourriture, ce sera l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est ce pain qui n'est plus du pain. C'est le pain divin. Jésus dit, je suis le pain vrai. Donc l'Eucharistie nous donne ce pain sous les apparences du pain que l'homme a fabriqué, a fait. Là, vous avez quelque chose qui est très, très important à saisir. Ma chair est vraiment une nourriture. Quand Jésus a dit « Je suis le pain de vie », il y a eu une attente, une discussion, un point d'interrogation. Et quand Jésus dit « Ma chair est vraiment une nourriture », ah, il y a le scandale. C'est impossible. C'est impossible. Rien n'est impossible. Vas-y, c'est impossible. Pourquoi ? Parce qu'on a jugé la parole du Christ selon nos propres connaissances. Selon nos propres expériences. Et à ce moment-là, ils ont déclaré « Cette parole est trop dure, qui peut l'entendre ?» Et ils sont partis. Voyez le scandale qui arrive quand Jésus annonce prophétiquement le mystère de l'Eucharistie. C'est lorsqu'on unit le divin avec l'humain. C'est là le scandale. Tant que Jésus parlait de choses lointaines, les choses lointaines deviennent immédiates. Ma chair est vraiment une nourriture. Mon sang est vraiment une boisson. Scandale. C'est curieux, le scandale s'est produit à propos du pain, pas à propos du vin. Ça aussi, c'est curieux, hein. C'est des choses étonnantes dans l'économie divine. Il y a eu un petit scandale au moment de l'invention du vin. C'est curieux. Le pain n'a produit scandale que quand Jésus a dit que sa chair était vraiment une nourriture. Tandis que le vin a tout de suite scandalisé. C'est Noé, le vin. Hein, le point de départ. On ne va pas parler de vin avant Noé. Donc le vin est toujours lié à Noé. Et Noé a fait une petite expérience, vous savez bien, un peu tragique, qui a divisé la famille en deux. Le pain ne divise jamais la famille, mais le vin, ça peut diviser la famille. À cause que le vin peut porter à l'ivresse. Alors oui, il y a eu une division dans la famille. Et le vin a fait scandale. Oui, c'est enivré. Noé s'est enivré. Et Dieu n'a pas du tout puni. Oui, Noé, pas du tout. Il a puni ceux qui ont utilisé l'ivresse de leur père d'une façon mauvaise. C'est très curieux, là. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui va très loin. Je ne vais pas insister là-dessus parce que ça, on n'aurait pas le temps. Mais je vous signale, vous voyez, dans toute bonne éducation, on vous montre qu'il y a des quantités de choses que vous n'avez pas compris. C'est ça la théologie de l'économie divine. C'est de faire comprendre que dans l'écriture, il y a encore des quantités de choses à creuser. Et que plus on creuse, plus on s'aperçoit qu'il y a des quantités de choses à creuser. Je regarde maintenant un autre aspect. Le mystère de l'adoration. Je crois que ce sont les deux grands moments dans toute la théologie de l'économie divine. Le pain, alors avant le Christ, avant l'incarnation, il y avait le pain. Tout de suite, tu travailleras à la sueur de ton front. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Tout de suite, le pain, fruit du travail. Donc il y a le travail. Le pain est lié au travail. Et dans la multiplication des pains, le pain est donné gratuitement. C'est curieux du reste. Ce pain donné gratuitement nous libère du travail. Il y a quelque chose comme ça qu'il faut essayer de comprendre. Et puis il y a l'autre aspect, il y a l'adoration. Et j'aime bien de montrer ces deux grands aspects. L'adoration. Dans l'Ancien Testament, joue un rôle capital. Les sacrifices, c'est l'adoration parfaite, l'Holocauste, où toute la victime est brûlée. Comme l'homme ne se brûle pas pour adorer Dieu, il se sert des victimes, des animaux, pour adorer. Donc, adoration et sacrifice sont liés. Et si vous êtes attentif à toute l'économie divine dans l'Ancien Testament, vous voyez que toutes les présences de Dieu se font par l'adoration. On ne peut pas nier. Toutes les présences de Dieu se font par l'adoration. Chaque fois que Dieu est présent, on adore. Vous voyez Abraham. Il y a Abraham. Il y a Abel. Ah oui. Première adoration, Abel. Et premier holocauste, le sacrifice d'Abel. C'est les deux qui vont ensemble. Je crois que les deux grands thèmes qui sont les plus profonds de toute la révélation, c'est le pain. L'Holocauste, l'adoration. Tous les deux, unis à l'homme. évident. Le pain qui fait comprendre ce que c'est que le Père. Et c'est par le Père qu'on connaît l'homme. C'est comme par la mère qu'on va connaître la femme. Alors, ce qui est très curieux, vous voyez, c'est que dans ce chapitre 6, où Jésus fait la multiplication des pains, il y a tout de suite la présence, la nuit. Alors on va unir le pain qu'on mange, qui est la nourriture, à la présence. C'est en filigrane, mais c'est quand même dit. Et ces deux grands thèmes, l'adoration et le pain et le vin, vont être unis dans la présence. Je crois que c'est important pour nous de comprendre ça. Et c'est pour cela que Jésus, après avoir montré qu'il vient apporter le vin, qu'il vient donner le pain, qu'il est le pain, Jésus rappelle l'exigence de l'adoration. Et on pourrait dire, selon l'évangile de saint Jean, que l'enseignement du Christ, c'est l'enseignement autour du pain et du vin, et l'enseignement autour de l'adoration. Une adoration qui doit garder toute sa pureté pour être une vraie présence de Dieu. Quand Jésus, tout proche de la scène, tout proche du mystère de la croix, Jésus est interrogé par les apôtres qui demandent à Jésus de parler aux Grecs. Jésus prend cette comparaison tellement forte pour faire comprendre ce qui va se passer si le grain de blé tombé en terre ne meurt et ne porte pas de fruit. C'est toute l'annonce du mystère de la croix. C'est toute l'annonce de l'adoration. Et il se sert de la comparaison du pain, du grain de blé. Donc le pain, à l'état virtuel. C'est quand même étonnant, tous ces liens. Si on veut comprendre un peu au point de vue théologique de l'économie divine. Il lie le mystère de l'adoration au grain de blé. Je sais, il parle aux Grecs. Et les Grecs sont des gens curieux. C'est la grande culture de l'époque. C'est pas les Romains, c'est les Grecs. C'est la grande culture de l'époque. Ce sont les Grecs qui montent. On voit pas les Romains montant. Tandis qu'on voit les Grecs monter à Jérusalem pour la fête de Pâques à cause du monothéisme. Les Grecs les plus intelligents comprennent que Dieu, s'il existe, il est unique. Or, il y a un peuple qui adore l'unique Dieu. Et ce peuple curieux a vite comprendre, Jésus ne veut pas qu'il se scandalise devant la croix. Mais il le prépare. Il lui donne cette expérience du mystère de la fécondité qui passe par la croix. Si le grain de blé ne tombe en terre, il ne porte pas de fruit. La fécondité implique le sacrifice et d'une certaine manière la mort. Un dépassement. La mort, c'est un dépassement. Le sacrifice, c'est un dépassement. Et la fécondité provient de ce dépassement. Nous voyons là, lié à l'adoration, la grande préparation au mystère de la croix. t'ai dit, tu restes dans une des préfaces, que le mystère de la croix reprend tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Et tous les sacrifices de l'Ancien Testament sont des présences de Dieu pour son peuple. Et le mystère de la croix va achever tout ça. Nous avons donc deux fils conducteurs qui vont se réunir dans l'institution de l'Eucharistie. Le fil conducteur du pain et du vin. Le fil conducteur de l'adoration et de l'Holocauste. Je trouve ça très étonnant. Et je crois que loyalement on peut dire que c'est les deux fils conducteurs de toute l'Alliance qui vont prendre leur sommet dans l'institution de l'Eucharistie. Saint Luc et Saint Jean. Saint Jean, chapitre 13. C'est juste la veille de la croix. Dans Saint Luc, chapitre 22. Là, on doit unir Luc et Jean. Alors, je voudrais maintenant m'arrêter avec vous à cette institution de l'Eucharistie pour comprendre comment l'Eucharistie lie adoration, holocauste et pain, nourriture. Dans la sagesse de Dieu, le mystère de l'Eucharistie est inintelligible sans le sacrifice de la croix. Et dans la sagesse de Dieu, le mystère de l'Eucharistie ne va pas jusqu'au bout. Sans la communion, sans le fait de se nourrir de ce pain divin. Nous avons donc, pour entrer dans le mystère de l'Eucharistie, deux portes, deux voies d'accès, qu'on ne doit jamais séparer. Mais on doit toujours les unir parce qu'elles sont unies dans la sagesse de Dieu. Mais c'est intéressant de voir que dans la pédagogie de Dieu, les deux voies d'accès sont distinctes. L'adoration et la nourriture. Alors il faudrait se demander pourquoi Dieu unit adoration et nourriture. Pourquoi Dieu unit holocauste et nourriture. Mais ça il suffit de lire l'évangile de Saint Jean, l'évangile de Saint Luc, pour comprendre que de fait, c'est très vrai. Les deux grandes voies d'accès, qui dans l'Ancien Testament sont distinctes, sont séparées, et qui vont s'unir mystérieusement, je dis bien mystérieusement, dans l'institution de l'Eucharistie. L'institution de l'Eucharistie, c'est Jésus qui devance le mystère de la croix, l'holocauste de la croix, l'adoration de la croix. Et c'est Jésus qui, en même temps, se donne en nourriture. Dans l'ancienne alliance, il y a eu un moment où adoration, sacrifice et manducation, communion, se sont unis dans la Pâque. La Pâque juive à la fois un aspect commémoratif d'un grand sacrifice. Et en même temps, un repas familial. Un repas familial et en même temps un rite politique du peuple d'Israël. Tout se trouve uni dans la Pâque. Et tout annonce la nouvelle Pâque qui est l'Eucharistie. C'est pour que nous comprenions tous ces aspects divers dans la pédagogie de Dieu sur nous et comment tous ces aspects divers vont s'unir dans le mystère de l'Eucharistie, dans le mystère de l'institution de l'Eucharistie. Alors si vous voulez, c'est ce chapitre 13 lié au chapitre 22 de Saint Luc qui doivent nous aider à bien comprendre ce mystère de l'Eucharistie. Jésus a voulu que le mystère de l'Eucharistie soit préparé par la Pâque juive. C'est très étonnant d'avoir fait ça. Parce que ça aurait pu être une source de confusion. C'est vrai. Quand on fait quelque chose de tout à fait nouveau, on n'aime pas tellement de le lier à quelque chose d'ancien. On ne met pas le nouveau vin dans les vieilles outres. Jésus le dit lui-même. Et Jésus a fait l'inverse. Ah, c'est étonnant, ça. Le nouveau vin, c'est bien l'institution de l'Eucharistie. Ça ne peut pas être plus nouveau. Et, je ne dis pas les vieilles outres, mais quand même, ce qui est au cœur de toute l'alliance ancienne, la Pâque. Mais Jésus a lié les deux. C'est très très mystérieux toutes ces choses-là quand on essaie de comprendre les intentions de Jésus. C'était tout à fait normal que Jésus puisse devancer la Pâque. Il semble bien qu'il l'ait devancée. Tout à fait normal. C'était tout à fait normal que Jésus, fondateur d'une nouvelle communauté, il a choisi. Il a pris des gens plus âgés que lui. Pierre, c'est sûrement plus âgé que Jésus. Ça explique du reste pas mal de choses. Parce que quand on est plus âgé, on croit toujours, en raison de son expérience, avoir une présence plus grande et de pouvoir remontrer. Il y en avait de plus jeunes que lui, Jean. Les deux extrêmes, Pierre et Jean. Puis il y en avait sûrement qui étaient proches de lui, comme âge. Mais on voit bien cela. C'est normal que Jésus prenne la Pâque juive avec ses apôtres. Il fallait que la Pâque juive se termine dans le cœur du Christ. C'était nécessaire pour qu'il nous fasse comprendre l'importance de la Pâque. Il fallait que les apôtres soient là. Et qui est l'unité. C'est vrai, ils étaient tous unis pour la Pâque. Judas aussi. Très étonnant. Il a fallu qu'il y ait entre les deux Pâques une rupture, le lavement des pieds. Un geste inédit qui ne faisait pas partie du tout de la liturgie. Il faut bien inventer de temps en temps des gestes liturgiques. Jésus peut l'inventer, il l'invente, le lavement des pieds, qui scandalise Pierre. Vous voyez déjà, hein, c'est tumultueux, la nouvelle Pâque. Ça ne se passe pas du tout dans le cadre de la première. La première, c'était tous d'accord, c'était parfait, c'était... La seconde Pâque, on voit Pierre qui s'insurge. Et Jésus doit le corriger. Corriger Pierre. Pierre comprenne que, oui, Jésus fait un geste et qu'il ne demande pas à Pierre de le comprendre. Il demande simplement à Pierre d'accepter. Et Jésus fait ce geste pour atteindre le cœur de Judas. Être seul avec Judas. Il l'a coincé là. Et Judas est obligé de faire comme tous les autres. Et Jésus est seul en face de lui.